Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Elie Lemel. Alors Rav Lemel, Shavuatov, on arrive à un moment qui est toujours un petit pincement au cœur pour tout le monde, même en avançant avec l'âge, c'est qu'on est en train de terminer Bereshit, on arrive à Vayechi, et justement la fin de notre beau livre de Bereshit, c'est Yaakov qui va donner des bénédictions à ses enfants. Et ces enseignements, ces bénédictions sont une source d'enseignement pour nous tous.
Oui, en effet, on est dans cette paracha qui va donc conclure le livre de Bereshit, avec donc ces dernières paroles que Yaakov va adresser à ses enfants. Et ce qui est très intéressant, tout le monde connaît en effet ce moment dans lequel Yaakov va rassembler ses enfants. Il leur dit Asfu vagid alachem et ashayikra yatrem bacharit ayamim. Il leur dit rassemblez-vous et je vous dirai ce qui va se passer bacharit ayamim à la fin des temps. Évidemment que là on attend avec impatience et puis il y a une rupture immédiate puisque il commence donc à bénir ses enfants. Il leur donne à chacun leur bénédiction, comme dit le texte, ish asher ke birchato berachotam, chacun suivant sa bénédiction, il les bénit. Et puis ça y est. On s'attendait à la révélation de la fin des temps, de ce qui va se passer, puis plus rien. Alors, Rashi sur place, évidemment, nous dit que Bikesh Yaakov, le galot et taket, ce que Yaakov a voulu révéler la fin de l'histoire, et puis à ce moment-là, Dieu a décidé que non. Et donc, il fait en telle sorte que Yaakov ne puisse pas révéler cela. À ce moment-là, cet esprit saint qui lui aurait permis de le révéler n'est plus présent chez lui, en tout cas, juste à cet instant T. Mais peut-être qu'il y a ici quand même une allusion dans le texte sur l'enjeu qui sera le nôtre à la fin des temps. Et je crois que c'est peut-être sur cela où il faudrait s'arrêter. Tout d'abord, le verset dit « Asfu ». Yaakov dit à ses enfants « Rassemblez-vous ». Mais ils sont là, ils sont face à lui. A priori, ce terme de « Asfu »,« Rassemblez-vous » n'est pas nécessaire puisqu'ils sont présents. Il y a peut-être ici une petite allusion à l'enjeu justement de ce qui va se passer à la fin des temps, c'est-à-dire la notion de asifa, c'est-à-dire d'être capable de se réunir ensemble. Mais si on a besoin de se réunir, c'est qu'au fond, on est chacun dans notre histoire, et ce qui est un peu normal, puisque au fond, chacun construit son histoire, chacun est en train de développer ce qu'on appellerait aujourd'hui ses propres projets, chacun développe sa famille. Et donc cette notion de asifa, c'est-à-dire de faire en telle sorte de se réunir, on n'est pas ici dans cette dimension de achdout, d'unité. C'est tout simplement dire, voilà, on a quelque chose à faire ensemble. La notion d'unité absolue, on la retrouve qu'une fois dans l'histoire, c'est au pied du Sinaï, dans lequel, à ce moment-là, le peuple d'Israël était que Ish Echad Belev Echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. Mais par la suite, en effet, eh bien, on verra malheureusement d'ailleurs dans le schisme, cette rupture entre les tribus d'Israël. Il va y avoir quand même bon nombre d'événements qui ne seront pas banals dans l'histoire du peuple d'Israël. Et donc cette notion de Asifa, c'est de se dire, mais au fond, décider qu'il faut vous réunir ensemble, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous lie, et c'est ça le premier point. Et tout de suite après, eh bien, ces bénédictions, Ish Asher Kebichato, c'est une idée très connue, mais je crois qu'elle vaut la peine d'être répétée et encore répétée, chacun suivant sa bénédiction. C'est intéressant parce que, a priori, lorsque vous allez bénir des personnes, vous allez leur souhaiter beaucoup de bonnes choses, évidemment. Et quand on nous bénit, c'est ce qu'on attend aussi, qu'on nous souhaite tout d'abord d'être en excellente santé, puis par la suite, enfin, tout ce que tout le monde désire, quoi, c'est-à-dire une famille épanouie, une réussite qui nous permette de pouvoir nous consacrer à l'essentiel, de ne pas avoir de soucis au niveau de la santé, ne pas avoir de soucis au niveau de la parnassa, de notre gagne-pain, tout ça c'est un petit peu normal. Alors, ish asher ke birchat, chacun suivant sa bénédiction. Et au fond, quand vous analysez un petit peu les textes, eh bien, vous voyez que Yaakov va rappeler à chacun de ses enfants qu'ils ont une singularité, qu'ils ont une particularité et qu'ils doivent l'assumer. À certains, il va rappeler les dysfonctionnements qui ont pu être les leurs pour leur montrer quel est le travail qu'ils doivent faire par rapport à des capacités qu'ils ont mais qui ont été à un moment mal utilisées. Et puis, à d'autres, il va mettre en exergue les capacités qui sont les leurs et leur rappeler qu'au fond, eh bien, chacun va devoir développer sa particularité. La notion de bracha, d'ailleurs, la notion de bénédiction, c'est quoi ? La bénédiction, c'est tout simplement le coefficient multiplicateur. D'où est-ce qu'on apprend cela ? Vous savez que lorsque la Torah nous parle pour la première fois de la notion de bénédiction, c'est lorsque l'on relate la création de l'univers, lorsque Dieu va yevarer chotam elokim, Dieu les a bénis. Et lorsque Dieu bénit, et bien là-bas, tout de suite après, le verset nous dit « Peru urvu, allez, développez-vous et multipliez-vous au fond ». Bénir quelqu'un, c'est lui souhaiter de se développer, c'est-à-dire de faire en telle sorte que les éléments qui sont chez lui aillent en se développant, en se multipliant et qu'il puisse réussir avec les éléments qui ont été mis à sa disposition à créer bon nombre de choses. Et c'est ça que Yaakov rappelle. Yaakov nous dit au fond, ne soyez pas des imitateurs, ne soyez pas de ceux qui pensent que eh bien, il y en a certains qui fonctionnent d'une certaine manière et donc il faut les suivre absolument. Non. Explorez à l'intérieur d'entre vous, de chacun d'entre vous, quelle est votre particularité et mettez-la au service du projet du peuple d'Israël. Le point commun, évidemment, c'est la relation à Dieu. Le point commun, c'est la Torah. Oui, en effet, le Shabbat, au niveau du concept, est le même pour tout le monde. Les téphilines, les mitzvot, les commandements sont les mêmes pour tout le monde, mais après chacun va les développer avec sa particularité, mais avec une base qui est celle qui appartient à toutes et à tous. Par contre, la notion de savoir qu'est-ce que je dois créer dans le peuple d'Israël, qu'est-ce que je dois amener dans ce peuple, ça c'est à chacun d'y réfléchir. Ce ne sont pas des choses simples d'ailleurs. Et pour cela, il faut d'abord mettre de côté une idée qui est de penser qu'on est les seuls avoir raison, que c'est nous qui savons, et que les autres membres du peuple juif, bon, ben, ils font aussi ce qu'ils doivent faire, mais bon, mais nous, on est dans la vérité. Vous savez, on rapporte une histoire qui est la suivante, c'est que lorsqu'on arrive à là-haut, après 120 ans, alors, évidemment, l'histoire est fausse, mais elle est belle quand même, eh bien, cette histoire-là nous dit que voilà, qu'on arrive là-haut, et puis, il y a des affectations. Alors les Tunisiens, vous êtes chambre, vous êtes dans la salle numéro 12. Les Ashkénazes du sud de la Pologne, vous êtes ici. Les Lubavitch, vous êtes là. Les Braslaves, vous êtes là. Les Djerbiens, vous êtes là. Enfin voilà, comme si au fond on affectait à chacun une place particulière. Et puis à un moment, les gens réalisent que chaque fois qu'on leur donne le lieu dans lequel ils vont être, on leur donne un petit papier sur lequel il y a marqué « Attention ». Vous êtes prié de ne pas du tout faire de bruit lorsque vous passez devant la salle numéro 7. Et les gens disent, mais pourquoi ? On leur dit, parce que dans la salle numéro 7 sont présents ceux qui pensent être les seuls au paradis. Cette histoire, moi, je l'aime beaucoup parce que, en effet, certaines personnes pensent qu'elles sont les seules à avoir compris, les seules à avoir raison. Et à partir de cela, pense que ce sont les seuls qui auront accès au Gan Eden, au paradis, qui sont celles qui véritablement ont compris. Non, c'est une erreur fondamentale. Oui, clairement, la Torah est la même pour nous toutes et pour nous tous, sans aucune ambiguïté. Le Shabbat et son respect est le même. Maintenant, les modalités, le style, certaines personnes vont tellement se focaliser sur la prière, d'autres sur l'étude, d'autres sur le chesed, sur l'investissement par rapport aux autres. Certaines personnes vont considérer que c'est très très important de prier, et ça l'est aussi tous les matins au lever du soleil net, et c'est vrai, et ça doit dépasser tout. D'autres, au contraire, considéreront qu'il vaut mieux le matin d'abord commencer à étudier, et d'autres diront que ce qui est important, c'est de s'occuper des malades et d'autres pour l'armée. Ce que vous voulez, du moment qu'on est dans le même Shulchan Aruch, qu'on est dans le même code de loi, après sur le reste, c'est justement Ish Asher que Birchato. Chacun suivant sa bénédiction. On n'est pas là pour invalider le style des gens. On est là pour comprendre que chacun va devoir s'exprimer. La limite, c'est évidemment lorsque le modèle de fonctionnement peut être toxique, lorsque celui-ci va à l'encontre des valeurs de la Torah. lorsqu'en effet, certains considéreront, et je le dis même si ça peut déplaire, que par exemple, le Shabbat à la synagogue, eh bien, boire plus que de coutume et plus que de raison, c'est une belle chose et c'est une grande chose, où là, en effet, malheureusement, on est un petit peu à l'encontre des valeurs de la Torah, parce que la Torah nous dit que quand on rentre chez soi à la maison, eh bien, il faut être capable de s'occuper correctement de son épouse et de ses enfants, de ne pas être abruti par les vapeurs de l'alcool. Oui, en effet, lorsque on est dans ces modèles-là, c'est contraire aux valeurs fondamentales de la Torah. Mais au-delà de cet exemple, et pourquoi j'en parle, et je fais une petite parenthèse, et je vous prie de m'excuser, mais je fais cette parenthèse parce que trop souvent, malheureusement, eh bien, on cherche à convaincre les personnes du bien fondé de comportements qui, qu'on le veuille ou pas, sont dysfonctionnels, que je ne juge pas, mais clairement, qui ne correspondent pas à la manière dont la Torah nous propose de fonctionner. Shabbat, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de délice. Avoir une ambiance un peu plus particulière, c'est quelque chose de très sympathique, mais il faut, comme dans toutes les choses, savoir les limites. Alors voilà, c'est un petit peu ça ce que Yaakov est en train de dire. Yaakov dit « Réasfou, rassemblez-vous ». Oui, en effet, certains seront plus vodka, d'autres seront plus boucha, certains seront plus ambiance et chant, d'autres seront peut-être plus études, certains seront dans une étude qui est extrêmement joyeuse, d'autres dans une étude beaucoup plus en concentration. C'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que chacun de là où vous êtes, vous devez faire briller une lumière particulière et unique et vous rassembler ensemble. Et c'est ça, en effet, qui va amener la notion du Ketz, la notion de la fin de l'histoire. C'est cet état d'esprit que doit avoir le peuple juif pour justement amener cette période que nous attendons toutes et tous, évidemment, avec beaucoup d'impatience. Et nous sommes sûrs qu'avec tous les efforts, eh bien, Bezrat Hashem, elle arrivera le plus rapidement possible.
Rabbi Lulemel, merci pour ces belles paroles nourrissantes. Je vous souhaite Shavuot, à la semaine prochaine. Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shavuot Tov.
Shavuot Tov, Bezrat Hashem, Besorot Tovot pour toi, Israël, et que Hashem nous permette de retrouver le dernier otage détenu
par
le Hamas et qu'on puisse l'enterrer en Israël.
Bezrat Hashem. Bien sûr, c'est devenu le truc maintenant d'oublier. Avant, on finissait pas une conversation sans dire et la prochaine conversation avec les otages. Rav Mordechai, on est 100% avec vous. Alors vous d'ailleurs, ce sur quoi vous voulez intervenir ce soir, c'est la notion de pardon.
Absolument. Bah, parce qu'en fait, Rabbeinu Bechaye, sur l'histoire de Yosef, donc la vente de Yosef et tout ce qui s'ensuit, dit que Yosef n'a jamais pardonné à ses frères. C'est-à-dire qu'il n'a pas clairement dit qu'il pardonnait à ses frères. Dans Parashat Vayechi, on voit qu'il s'adresse à eux avec ce que Rashi appelle d'ivrei tanchumim, sur des paroles de consolation, des paroles d'apaisement. Il leur dit, vous étiez 10, vous avez voulu une bougie, 10 n'ont pas pu éteindre une bougie, comment moi est-ce que je pourrais faire quoi que ce soit avec vous ? Je suis sous les ordres d'Hachem, c'est Hachem qui a tout décidé, Hachem a décidé que je serai là. En un mot, il explique que finalement, chacun finalement ici, au nom de ses mauvaises midot, de ses mauvais traits de caractère, a finalement été un agent de la providence divine qui a conduit Yosef à être en Égypte pour sauver ses frères au moment de la famine. Mais enfin, le fond de l'affaire, c'est quand même qu'on paye tout ça jusqu'à aujourd'hui. Comme le dit le Chafetz Chaim et le rapport Ravel Hanan Wasserman, les accusations de crimes rituels qui ont scandé la vie juive pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, les accusations de crimes rituels, on accusait les juifs de prendre du sang chrétien donc pour les matzot, eh bien, elles étaient dues au fait que les frères avaient trempé la tunique donc, de Yosef dans du sang de chevreau pour tromper leur père. Donc, le Chafetz Chaim a dit à Rav Elchanan Wasserman, il le rapporte son confesseur à Marine, que ces accusations qui sont absurdes, elles ont ici cette origine-là. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelque chose qui doit être expié. Et en fait, au fond, la question fondamentale qui est liée à cette question du pardon, et on va la ramener à la dimension personnelle, familiale, sociale. La dimension fondamentale, c'est que finalement, sur le plan humain, on va dire que c'est impossible de pardonner. D'ailleurs, je vois souvent dans les thérapies de couple, là où il y a eu des tromperies, là où il y a eu des abus, etc., quand on parle aux gens de rentrer dans un processus de pardon, on parle de quelque chose qui finalement peut commencer, mais ne s'achèvera jamais réellement. Ce qui fait que les gens, dès le départ, disent « Non, ce n'est pas là que je me situe ». Et je voudrais dire ici quelque chose d'important, qui me semble fondamental, dans les conflits communautaires, dans les conflits intrafamiliaux, et d'une manière générale, dans les conflits familiaux. Le premier point, c'est d'accepter que finalement, Dieu nous parle par l'intermédiaire des plantes, par l'intermédiaire des événements, du climat, des événements comme ça, dit le Chafetz Chaim. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est un message qu'Hachem nous envoie. On ne sait pas toujours le lire, mais il y a un message. Mais Hachem, il peut s'adresser à nous aussi par l'intermédiaire d'individus avec lesquels on est en conflit. Et je pense que la première chose que quelqu'un doit faire lorsqu'il est en conflit, c'est de se poser la question de savoir quelle est sa participation au conflit. Pourquoi lui, il est en conflit? Qu'est-ce qui en lui l'a amené à être en conflit? Ça va amener l'individu à rentrer dans un apprentissage qui est un apprentissage de connaissance de lui-même. Le temps numéro 2, ça va être de pratiquer un apprentissage de pardon de soi-même. Apprendre à se pardonner. Parce qu'avant de pardonner aux autres, il faut apprendre à se pardonner, de se retrouver dans une situation. Et souvent, les gens se sentent extrêmement coupables d'être dans des situations où finalement, ils ont subi un conflit, ils ont subi un dommage. Et le troisième temps, ça va être de comprendre que cette personne qu'Hachem nous a envoyée, et d'ailleurs Youssef le dit à ses frères, cette personne qu'Hachem nous a envoyée, bah finalement, elle nous aura permis, dit Rabbi Chaim Vital, il dit cette personne qui te fait du mal est proche d'être ton meilleur ami. C'est pas ton meilleur ami, les meilleurs amis ne font que du bien. Mais c'est une personne qui douloureusement t'a permis finalement de grandir. Donc finalement, dans le conflit, ce qu'on doit chercher à faire, c'est à en sortir et à en sortir par le haut. Et finalement, qu'est-ce que je peux apprendre qui va me renforcer dans un conflit? Parce que les gens souvent ressassent pendant des années, s'affaiblissent et se créent des maladies auto-immunes. Et au fond, c'est ce qu'on peut dire ici dans cette histoire-là. Et finalement, cette histoire de Yosef qui n'a jamais été pardonné, elle a créé une maladie auto-immune dans le peuple juif. C'est la marloquette, c'est la dispute. Et on voit bien aujourd'hui que les gens se disputent, on peut le comprendre, mais que la marloquette arrive à ce que j'appelle la pyromanie, c'est-à-dire mettre le feu et se féliciter de la mort et de la violence exercée sur les autres, c'est horrible. Cette maladie auto-immune dans le peuple juif, c'est ça qui empêche le Mashiach de venir. Que les gens n'aient pas les mêmes avis et que les gens se disputent, on peut le comprendre. Difficulté à pardonner sur le plan humain, je viens d'expliquer en quelques mots pourquoi ça peut s'entendre. Mais que les gens soient dans la pyromanie, dans la joie de la défaite de l'autre, dans la joie de la violence faite à l'autre, que ce soit au niveau social ou au niveau individuel, ça empêche le Mashiach de venir. Et je dis à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, voulez-vous bagarrer, voulez-vous disputer, faites-le à souhait, puisque c'est comme ça que ça marche. Mais sachez que vous devez souhaiter que la personne qui est en face de vous, cette personne-là, il ne lui arrive que du bien. On a tendance à maudire parfois, c'est terrible, d'accord ? C'est une maladie terrible. Voilà, moi, je voudrais lancer un appel ici. Apprenons à nous disputer kasher et apprenons à faire la paix rapidement et du mieux que nous le pouvons et apprenons à comprendre que Hachem finalement conduit son monde par la manière de tout genre de gens et souhaitons pour l'apaisement, on appelle ça le shalom en hébreu, on va dire l'apaisement, voilà, l'apaisement, que les gens apprennent à s'apaiser. Voilà un message qu'on peut lancer là maintenant pour cette parachat de Vayechi, à toutes et à tous, Shavua Tov.
Magnifique, en sachant évidemment que nos premiers invités sont nos enfants, nos épouses, nos maris, et qu'on peut, dès maintenant, dès demain, dimanche, commencer par là. Rav Mordechai Biton à Jérusalem, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay.
Bonsoir.
Shavua Tov. Rav Gay, vous voulez. On va reconnaître l'enseignant là dans ce que vous allez nous dire. Vous voulez nous dire que les bénédictions que Yaakov donne à ses enfants, qui sont toutes différentes par définition, chacun a sa bénédiction bien à lui, bien spécifique, c'est un moyen de nous montrer à nous comment comprendre que chaque enfant est différent, évidemment. On va entendre avec plus de profondeur ce que vous allez dire. Et c'est un enseignement sur les midot. Alors les midot, c'est très difficile à traduire. C'est les traits de caractère, c'est les qualités de caractère. Et c'est sur ça que vous voulez nous inviter à réfléchir ce soir.
Tout à fait. Effectivement, lorsqu'on parle de midot, vous avez dit le bon mot, c'est difficile à traduire. Parce que si on traduit mot à mot, midot, c'est les mesures. Quel rapport entre les mesures et les traits de caractère? En fait, on sait tous que, par exemple, la colère, elle est à bannir, mais que de temps en temps, il faut avoir au moins faire semblant d'être en colère pour mettre un peu le calme dans la famille. Lorsque les enfants font un peu les fous, on a besoin en tout cas d'avoir une semblante de colère pour les calmer. Chaque trait de caractère, il est bon dans certaines situations et est mauvais dans d'autres. Donc, c'est tout est avec mesure. Mais quel est l'enseignement que je voudrais dégager des bénédictions de Yaakov? Yaakov, en fait, bénit chaque enfant, mais au début, ce n'est pas une bénédiction qu'il fait à Réhouven, par exemple. Réhouven aurait dû, en tant que premier-né, avoir les prérogatives d'un premier-né, c'est-à-dire d'être le Kohen, d'être le roi, d'avoir la double part. Et tout ça, il l'a perdu parce qu'il a eu la faute d'avoir déplacé la couche de son père Yaakov sans lui demander l'autorisation au préalable. Il l'a déplacé de la tente de Bilha, qui était la servante de Rachel, vers la tente de sa mère Léa. On ne discute pas le fond de la chose, c'est-à-dire la décision de Réhouven, ce n'est pas le sujet. La raison pour laquelle Yaakov se met un peu en colère contre Réhouven, c'est qu'il appelle Pachaz Kamaim, tu es impétueux. Pour être un leader, pour être un chef, pour être un Cohen, pour être un leader de la famille, il faut que tu aies du sang-froid, du recul. Et là, tu as réagi avec beaucoup d'impétuosité, donc tu as révélé un trait de caractère où la bénédiction, ce n'est pas d'être le chef. Si être chef, c'est faillir à sa mission de chef, c'est pas une bénédiction. Or, là, Yaakov a dit, j'ai vu, en voyant ta réaction, que tu n'étais pas un chef en potentiel, tu n'étais pas Raoui apte à devenir un chef, que tu devais être plutôt reprendre ta place parmi les frères et ne pas avoir de prérogatives. Sinon, ce ne sera pas une bénédiction, mais ce sera plutôt une malédiction. Donc finalement, le bénir, c'est lui enlever une prérogative. Et d'abord, c'est lui faire comprendre l'attrait de caractère auquel il doit être vigilant, sur lequel il doit être vigilant, l'impétuosité chez les Réhouven. Shimon et Lévi, leur sentiment de fraternité les amène à faire à tuer toute une ville. Donc il leur dit attention. Ils ont voulu vendre Yosef. Là encore, Yaakov les réprimande. Mais là encore, c'est pour leur faire du bien. Leur dire voilà, votre place est une place très importante dans le peuple juif. Mais attention, vous avez tel défaut. Donc il faut se mettre dans une situation où votre défaut ne va pas nuire à votre mission. C'est quoi être un éducateur? C'est de permettre à l'être qui est éduqué, donc à notre enfant ou à nos élèves, de leur révéler leurs qualités et aussi leurs défauts et les conseiller en leur disant, voilà, vu vos qualités, vu vos défauts, la meilleure façon de les réaliser, de vous réaliser, c'est d'avoir tel ou tel métier, d'avoir faire telle ou telle chose. Puisque le but, c'est tout simplement non pas d'être comme un tel ou un autre, c'est pas de ressembler à celui qui est considéré par le monde entier comme une star. Non, le but, c'est de réaliser ses potentialités et d'être équilibré et d'être bon dans ce que l'on faisons. Et ça, c'est le principal problème, c'est que les gens en général ne veulent pas reconnaître qu'ils sont pas prêts à se regarder dans une glace et à analyser véritablement leurs qualités et leurs défauts. Il y a 12 tribus d'Israël. Chacune est différente, chacune a une autre mission, et personne ne doit être jaloux de l'un de l'autre, même si on a l'impression qu'il y a une tribu qui a une mission qui a l'air plus importante, plus prestigieuse que l'autre. Ce serait comme dans une armée. Dans une armée, il y a besoin de l'armée de terre, armée de l'air, armée de la marine. On a besoin d'espions. Et si une armée est jalouse de l'autre, si chacune tire la couverture vers elle, ben effectivement, c'est la catastrophe annoncée. Puisque chaque corps d'armée constitue une armée entière, une armée complète, avec la capacité d'agir dans tous les domaines. Ça, c'est un peu notre rôle à nous tous, nous éducateurs, nous parents, et nous aussi professeurs, c'est de dire, soyons vigilants, d'analyser les choses dans la profondeur, dans la finesse. Réhouven, ce n'est pas juste une faute qu'il a commise. Cette faute était révélatrice d'un trait de caractère. Shimon et Lévi, ce n'est pas seulement des fautes qu'ils ont commises. C'est révélateur d'un trait de caractère. Donc, il va falloir leur trouver une place pour que ces traits de caractère ne nuisent pas à leur avenir. Mais aussi, c'est l'occasion pour nous, pour l'éducateur, de les orienter vers un certain rôle. Lévi, par exemple, étant très, très sensible aux notions de la fraternité, puisque s'il a réagi si violemment face à Yosef, c'est parce qu'il en voulait à Yosef de casser l'unité de la famille, d'aller raconter à Yaakov des choses sur les frères et donc de nuire à l'unité de la famille. de prendre la place de Yehuda. C'est ça que Lévi avait ce sentiment de fraternité. Il est très sensible à ce que vivent ses frères, et c'est pour ça qu'il réagit avec autant de force. Donc Lévi va devenir celui qui est l'origine des Kohanim. Il va aussi faire le travail dans le Beth Amikdash en tant que Lévi. Donc il va avoir un rôle communautaire. Il va prendre en main et il va prendre surtout à cœur les problématiques de chacun d'entre nous et apporter des sacrifices pour obtenir l'expiation du peuple juif. Donc il va véritablement exprimer sa potentialité, mais au départ, ça s'est exprimé dans la violence. Alors Yaakov leur dit, attendez, la violence, c'est ça, c'est pas nous. Nous, c'est la prière, nous, c'est au contraire l'unité, c'est vouloir trouver la bienveillance. Et c'est effectivement ce que Lévi et Cohen deviennent par la suite, des gens extrêmement bienveillants, extrêmement utiles pour l'unité du peuple juif. Même chose avec Shimon. Shimon deviendra un enseignant. Il va enseigner donc la Torah des enfants. Il va devoir se déplacer dans beaucoup d'endroits pour pouvoir enseigner la Torah. Melamed Tinokot, un enseignement aux enfants. Et ainsi de suite, chaque tribu, Yehuda, on sait qu'il a commis une erreur avec Tamar, même si nos sages nous disent que ce n'était pas de sa faute, mais il a tout de suite su avouer et reconnaître sa faute, et il a montré ainsi qu'il était un vrai leader. On oublie souvent de penser que le roi, le leader, c'est d'abord celui qui donne la vérité en priorité avant son intérêt personnel. Que son intérêt personnel soit secondaire par rapport à l'intérêt du peuple. C'est la qualité première et indispensable du leader. Et Yehuda l'a montré puisqu'il a dit « Je suis allé avec Tamar, je l'avoue. » Et pourtant, il risquait tout son avenir. Et finalement, Hachem a dit « Ce genre de personnage qui met la vérité en avant, même si ça va nuire à sa réputation, ben c'est ce personnage qui va être le roi d'Israël. » Ainsi de suite, on voit comment chaque fois, les qualités ou les défauts révèlent donc ce qu'un homme doit être dans sa vie. Et la bénédiction, c'est de mettre là où il doit être. Même chose avec Ephraim et Menaché, les fils de Yosef, où Yaakov a donné la main droite sur Ephraim, la main gauche sur Menaché, en disant « Ephraim, même si Menaché est quelqu'un d'extraordinaire, magnifique, mais c'est Ephraim qui aura le leadership et c'est Ephraim qui va donner naissance à Yoshua Bin Nun, au fameux Mashiach Ben Ephraim, Mashiach Ben Yosef, qui va délivrer le peuple juif. » Donc, il faut savoir reconnaître que finalement, nos ancêtres, nos patriarches et les prophètes ont su voir quelle était notre spécialité. Et c'est en fonction de nos capacités et de nos qualités que l'on faut orienter, qu'il faut s'orienter soi-même, orienter nos enfants, et être capable de faire abstraction sur les petites, on va dire, les ambitions personnelles, la jalousie, pour faire ce qui est le mieux pour nos enfants. Voilà, en résumé, évidemment, ce shiur que j'ai entendu de Rav Wolbe, vous avez compris, c'est de lui que je le tiens, et je l'ai entendu en 1983, c'était il y a longtemps, et ça a duré une heure et demie. Une heure et quart, et donc je le résume en très peu de temps. Donc je passe beaucoup de choses importantes qu'il a dites, mais je pense que c'est l'occasion pour nous de commencer à relire Parashat Vayechi autrement que simplement par des bénédictions, mais aussi par une analyse de ce que Yaakov a voulu faire et nous apprendre que d'abord la bénédiction, c'est d'être à sa place. C'est de pouvoir utiliser au mieux ses potentialités en nous donnant la possibilité de les exprimer à travers un métier, à travers un rôle, qui va nous permettre justement d'être à cette place, et non pas d'avoir la place du président, du roi, si ce n'est pas la nôtre. Voilà un petit peu le message que je voulais transmettre, et je souhaite à tout le monde Shavua Tov.
Rav, en vous écoutant, moi je retiens un mot, vous avez dit être vigilant avec les enfants, c'est vrai, c'est important, des fois on ne se rend pas compte, ça peut coûter très cher en ce moment avec les écrans, la vitesse des choses, l'information qui circule. Et... un jour, j'ai demandé à Luis Fernandez, qui était entraîneur de l'équipe de France, qui était un très grand joueur lui-même, et après, il est devenu un très grand entraîneur, pas de l'équipe de France, mais du PSG. Et je lui ai dit, comment on fait pour permettre à un grand joueur de devenir un grand joueur? Et il a dit, déjà, il faut savoir que c'est lui qui joue. Parce que pour nous, les joueurs, quand on devient entraîneur, on a l'impression qu'on recommence une deuxième carrière. Mais c'est une deuxième carrière qui est différente. On ne refait pas le match. Il faut savoir, et c'est ce que vous venez de nous expliquer, c'est j'ai l'impression d'avoir compris ça comme ça. Le gamin, j'ai envie de dire, c'est lui qui joue. Laisse-le jouer. Sois vigilant, d'accord, mais laisse-le jouer. Vous avez bien compris?
Tout à fait, c'est un des éléments qui est important, c'est que souvent, l'éducateur, il essaye de réussir sa vie à travers son fils ou son élève, en disant, en se projetant dans son élève, alors qu'en fait, il faut savoir respecter ce qu'est l'autre, bien le comprendre et bien le cerner pour qu'il réussisse. Parce que s'il faut qu'il fasse ce que j'aurais voulu faire moi et mes frustrations que j'essaye de réaliser à travers mon enfant, c'est pas comme ça qu'on réussit une éducation.
Magnifique. Rav Guay, je vous remercie et je vous souhaite Shavua Tov.
Shavua Tov.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Excellente soirée à tous. Shavua Tov.